C'est l'heure du journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Noël n'arrêtera pas les grévistes toujours mobilisés. 21e jour du mouvement social contre la réforme des retraites. Des perturbations sont encore à prévoir, notamment à la SNCF et la RATP, avec en moyenne un TGV sur trois en circulation.
Des messes de Noël ont été célébrées partout dans le monde et même en Chine. Les autorités renforcent leur contrôle sur les écrits religieux en modifiant les traductions des textes. Le but, rester dans la ligne du Parti communiste.
Le nombre de naissances est en chute libre. Au Japon, il est passé sous la barre des 900 000 cette année. Le Premier ministre évoque une crise nationale, précision de notre correspondant à Tokyo.
Nous irons aussi au cimetière militaire de Bucarest, 30 ans après la mort du dictateur communiste roumain Ceaușescu. Des nostalgiques continuent de lui rendre hommage.
Avant d'en venir à l'actualité politique et économique, nous nous intéressons ce matin au Christ moqué. C'est le nom d'un tableau auparavant accroché chez une vieille dame à Compiègne dans l'Oise, entre le salon et la cuisine. Un petit panneau du XIIIe siècle de Cimabue, œuvre inédite qui a inspiré de grands artistes de la Renaissance italienne et vendu en octobre dernier 24 millions d'euros à un couple de collectionneurs chiliens. Mais pas question pour la France de s'en séparer. Le ministère de la Culture l'a reconnu comme trésor national. Son exportation est pour le moment interdite. Une course contre la montre est lancée, Nicolas Fillon.
En refusant de délivrer le certificat d'exportation d'une œuvre d'art, l'État se donne du temps pour la racheter. Un refus matérialisé par un arrêté ministériel dans le journal officiel du 20 décembre dernier qui confère au Christ moqué le statut de trésor national pendant 30 mois, 2 ans et demi pour faire une offre d'achat à l'acquéreur initial et pendant lesquels le tableau ne pourra pas sortir du territoire. Cette procédure, plutôt courante, a été actionnée récemment pour une toile du Caravage en 2016. Sans porter ses fruits. Cette fois, le ministère de la Culture ne compte pas laisser passer sa chance. La peinture à l'œuf et fond d'or sur panneau de peuplier de Cimabue, considéré comme un chef-d'œuvre majeur et rare de la pré-Renaissance italienne, a une valeur exceptionnelle pour l'histoire de l'art, explique-t-on rue de Valois.
Nicolas Fillon, l'État a-t-il les moyens de racheter le Christ moqué ?
Et c'est la grande inconnue et c'est ce qui préoccupe maître Dominique Lecoens qui avait adjugé l'œuvre. Lors de la mise aux enchères, l'État s'était positionné pour préempter le tableau, mais son enveloppe de 15 millions d'euros n'avait pas fait le poids face aux 24 millions de ce couple de collectionneurs chiliens installé aux États-Unis. S'il se félicite de la volonté de garder le Christ moqué en France, le commissaire priseur craint un blocage de l'œuvre de la part du ministère de la Culture, qui de son côté promet de faire appel à toutes les ressources possibles, dont le mécénat, pour s'en emparer. 3 options sont donc envisageables. L'État peut tout d'abord réussir à racheter la peinture de Cimabue. Si son offre, après plusieurs négociations, est refusée par ses propriétaires, le tableau restera obligatoirement en France. Enfin, si l'État ne donne aucun signe au bout de 30 mois, la peinture sera libre de circuler partout dans le monde.
Et vous pouvez découvrir le Christ moqué de Cimabue sur notre site franceculture.fr. Déjà 21 jours de grève et le conflit social contre la réforme des retraites perdure. À la SNCF, le taux de grévistes était de 9,8% hier, en légère hausse d'après les chiffres de la direction. Près de la moitié des conducteurs se sont mobilisés. En ce jour de Noël, on attend dans les gares un TGV sur 3, un Transilien sur 6 et 3 TER sur 10. Dans le métro parisien, seules 2 lignes seront ouvertes, la 1 et la 14, les 2 lignes automatiques. Le trafic des RER est aussi très perturbé. Quelle issue pour ce conflit social? Le gouvernement a l'espoir de le voir s'éteindre pendant les fêtes de fin d'année, mais cela semble plutôt mal parti. D'après le politologue Jean-Marie Pernaud, chercheur associé à l'Institut de Recherches Économiques et Sociales, la situation s'explique notamment par un refus de l'exécutif de reconnaître la légitimité des organisations syndicales. Selon lui, il existe en France une culture de la confrontation.
C'est vrai qu'on a un mouvement syndical qui n'est pas tout à fait ressemblant à celui des voisins. Il a toujours porté avec lui la suspicion d'être insuffisamment représentatif. Et très souvent, les syndicats sont obligés de faire en permanence la démonstration qu'ils sont capables de mobiliser les gens, de faire des grèves, etc. En Allemagne, on dit toujours il y a peu de grèves. Bien sûr, il y a peu de grèves. Mais les syndicats, quand ils la font, elles sont très puissantes. Et leur force est non seulement de pouvoir faire la grève, mais de ne pas avoir toujours besoin d'en faire la preuve. Et c'est ça qui donne une certaine efficacité aux compromis sociaux. Parce que les employeurs savent très bien que les syndicats peuvent avoir, s'il y avait besoin, une capacité de nuisance, et on arrive à discuter, à construire des compromis. En France, il faut toujours que les syndicats soient capables de démontrer qu'ils disposent de ce rapport de force. Et depuis quelques années, eh bien, ils en disposent plus difficilement. La pratique de la grève régresse, l'internationalisation, la financiarisation de l'économie, etc. Tout ça amoindrit les capacités de pression qu'ont les organisations syndicales et ne reste plus que ces grands mouvements de manifestation qui viennent de tous les 3, 4, 5 ans signaler aux gouvernants que les gens ne sont pas prêts à se laisser conduire sans réaction vers des régressions sociales qu'ils jugent irrecevables.
Le politologue Jean-Marie Pernaut avec Stéphane Robert. Notons que pour le week-end qui arrive, la SNCF a annoncé qu'elle comptait faire rouler 6 TGV sur 10. Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart des 800 000 voyageurs ayant une réservation. Les autres sont invités à échanger leurs billets. La mobilisation a occasionné à la SNCF un manque à gagner de 400 millions d'euros. Parmi les images marquantes de cette mobilisation contre la réforme qui prévoit l'instauration d'un régime universel, on retiendra sûrement celle d'hier à Paris, dehors sur le parvis du Palais Garnier. Une quarantaine de danseuses du corps de ballet de l'opéra ont donné un petit spectacle, des extraits du Lac des Cygnes, des photos et des vidéos très partagées sur les réseaux sociaux. L'opéra est touché par la grève. Depuis 2 semaines, de nombreux spectacles ont été annulés. Cette institution culturelle bénéficie d'un régime spécial, l'un des plus anciens de France. Il date de 1698 et permet de tirer sa révérence à 42 ans compte tenu de la pénibilité du métier de danseur.
8h07 sur France Culture, la suite de votre journal Margot Delpierre. Le pape a célébré la messe de minuit hier soir depuis la basilique Saint-Pierre.
Une messe suivie par des milliers de fidèles à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice religieux. Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire, a déclaré le pape pendant son homélie. Il apprenait l'amour inconditionnel et gratuit à contre-courant d'un monde où, je cite, tout paraît répondre à la logique de donner pour avoir. Le pape François doit ce midi adresser son message Urbi et Orbi à la ville et au monde. En Chine aussi, des messes de Noël ont lieu sous très haute surveillance. Le Parti communiste a demandé aux représentants des principaux cultes de retraduire des textes religieux de référence, à commencer par le Nouveau Testament. Une façon de renforcer son contrôle sur l'exercice des religions, Stéphane Pambrin.
Cette réécriture de la Bible s'accompagne de nouveaux chants religieux plus harmonieux aux oreilles du parti, mais aussi d'éléments de calligraphie insérés dans les textes sacrés. Une nouvelle liturgie aux caractéristiques chinoises, selon la terminologie officielle, qui concerne les 60 millions de chrétiens du pays. Et toutes les religions sont concernées par cette reprise en main initiée par le président Xi Jinping. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il veut mettre le pays au seul diapason du parti communiste, du jamais vu depuis 50 ans. Et la révolution culturelle. Des milliers de croix ont été retirées des frontons des églises et les symboles musulmans ont également été gommés. Fini les croissants lunaires sur fond vert, symbole de l'islam, place aux larges banderoles rouges vantant les mérites du parti communiste et appelant à l'obéissance une population cornaquée par le régime. Mais ce sont les musulmans ouïghours du Xinjiang qui payent le prix le plus lourd de cette politique. Selon plusieurs rapports d'Organisations internationales de défense des droits de l'homme et de l'ONU, entre 1 et 3 millions de musulmans chinois ont été rééduqués dans des camps installés à l'extrême ouest de la Chine. Une politique menée au nom de la lutte contre la radicalisation, le terrorisme et les influences étrangères.
Stéphane Pambrin à Pékin pour France Culture. Comment arrêter la chute du taux de natalité au Japon? Le nombre de naissances a reculé de près de 6% cette année, en tombant pour la première fois sous la barre des 900 000. Un seuil franchi 2 ans plus tôt que l'imaginait le ministère de la Santé japonais. Le Premier ministre Shinzo Abe parle d'une véritable crise nationale. À Tokyo, Frédéric Charles.
Cette chute des naissances au Japon fait perdre leur sang-froid aux plus hauts responsables du parti conservateur au pouvoir. L'un d'entre eux se demande si les jeunes japonais qui refusent de faire des enfants ne sont pas devenus trop égoïstes ou pire que ça, antipatriotiques. Si les Japonaises font la grève des ventres, c'est parce qu'elles savent qu'elles devront élever seules leurs enfants. La preuve par cette explication d'un autre politicien conservateur, proche du Premier ministre Shinzo Abe. L'éducation des enfants, dit-il, doit rester un travail des femmes et encourager les hommes à partager une telle tâche est une mauvaise idée. Le Premier ministre Shinzo Abe, qui n'a jamais eu d'enfants, a été forcé de répondre que l'État n'a pas imposé ses opinions dans la décision de concevoir un enfant ou non. Le gouvernement a ouvert plus de crèches publiques pour encourager les couples à avoir des enfants, mais les entreprises refusent encore d'adapter leur organisation du travail aux besoins des jeunes femmes. Et les salaires des jeunes restent trop faibles pour se marier et faire des enfants. En attendant, le Japon perd chaque année 400 000 habitants, car les décès sont plus nombreux que les naissances.
Frédéric Charles de RFI pour France Culture. 35 civils, dont 31 femmes, ont été tués hier dans le nord du Burkina Faso, à Arbinda, selon les autorités. Une attaque perpétrée par des djihadistes, l'une des plus meurtrières de l'histoire du pays. Deux jours de deuil national ont été décrétés. Les autorités affirment aussi avoir tué 80 terroristes et déplorent la mort de 4 soldats et 3 gendarmes. Depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait plus de 700 morts. Le 25 décembre 1989, il y a précisément 30 ans, le dictateur communiste roumain Ceaușescu et son épouse étaient fusillés après le renversement du régime et un procès expéditif. Des nostalgiques continuent de leur rendre hommage, comme à chaque anniversaire de leur mort. Ils croient en la thèse d'un président évincé par un coup d'État orchestré de l'étranger. Selon une étude récente, 52% des Roumains estimaient qu'ils vivaient mieux au temps du communisme. Au cimetière militaire de Bucarest, le reportage de Paul Cosiguian.
La tombe est dans un état impeccable, couleur bordeaux plutôt discrète. On y lit en lettres dorées Nicolae Ceaușescu, président de la République socialiste de Roumanie. Une petite dizaine de personnes, des retraités pour la plupart, désireux d'exprimer leur colère.
Aujourd'hui, la Roumanie est une colonie, une dictature de l'Union européenne et de l'OTAN. Ceux qui nous ont gouvernés depuis 1989 ont détruit l'économie et la société roumaine. Que du chaos, de l'anarchie et de la débandade. Ils ne méritent aucun respect de notre part.
Ils font partie du comité de réorganisation du nouveau parti communiste roumain, pas encore enregistré officiellement. Son président se montre étonné de l'étiquette de nostalgique attribuée à son mouvement.
Cette nostalgie est devenue un crime dans le vocabulaire des médias. Or, c'est bien connu qu'on ne peut pas être nostalgique après de mauvaises choses, mais seulement après de bonnes choses.
Les bonnes choses, dit-il, sont les grandes réalisations de l'époque Ceaușescu, comme par exemple la Maison du Peuple qui abrite le Parlement, ou bien le canal de navigation Danube-Mer Noire. Il y a aussi des jeunes dans ce comité, bien déterminés à poursuivre la lutte.
Il y a parmi nous ici quelqu'un qui représente une organisation de presse bourgeoise et je suis certain qu'il va nous détruire. Rien ne nous arrêtera et ceux qui se battent aux côtés des travailleurs forment l'armée du bien. Gloire à ceux qui ont lutté pour les travailleurs, Nicolae Ceaușescu et d'autres. Que leur mémoire soit sanctifiée.
Les commémorations se poursuivent aujourd'hui à Târgoviște, à 80 km nord de Bucarest, dans la caserne où le couple Ceaușescu a été fusillé le jour de Noël 1989.
La Roumanie qui était au cœur du dernier grand reportage de la rédaction Révolution roumaine 30 ans après l'espoir entravé. C'est à réécouter sur notre site franceculture.fr. L'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle américaine a eu recours à des prisonniers pour passer des coups de fil promouvant sa candidature. Information du site The Intercept. Selon le média, c'est par le biais d'un de ses fournisseurs que l'équipe a fait appel à un sous-traitant, Michael Bloomberg, le candidat en question, ancien maire de New York, a reconnu que l'article était correct, mais assure ne pas avoir été au courant des faits. Il ne reste plus qu'un département en vigilance orange, la Charente-Maritime, pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui s'améliore, Météo France prévoit quelques éclaircies, des bancs de brouillard nombreux au lever du jour sur l'ouest du pays. Les températures sont douces, vous aurez au maximum 8 degrés à Lille, 10 à Paris, Lyon et Strasbourg, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille et 19 degrés à Perpignan, Hervé.
Merci beaucoup Margot Delpierre.